Voilà, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Aggredisci.
Ma stata forte, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fatti fisso? Come fatti fisso?
Cinéphiles d'Ardèche et des Deux-Sèvres, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler des films d'Alva, d'Emmanuel Nico, En plein feu de Quentin Reynaud, Ailleurs si j'y suis de François Pirot, Everything, Everywhere, Everything, All at Once, de ceux qui se disent les Daniels, donc Daniel Schenert et Daniel Kwan, et aussi de Pour la France, on en dira un petit mot, tous en compagnie de René, bonjour René.
Bonjour.
Didier, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour à tous les auditeurs de Manhattan.
Oh oui. Donc version classique encore aujourd'hui, puisqu'on se concentre sur la critique des films que l'on peut voir sur les écrans en Ardèche aujourd'hui, avec quand même en fin d'émission un petit point agenda. Eh bien, on passe tout de suite aux critiques de films.
Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible, tu peux pas aller à l'école comme ça.
Pourquoi ?
Je suis pas une fille, je suis une femme.
T'es pas encore une femme, Dalva.
Pourquoi t'es là, toi ? Je sais pas.
Elle est bien ta robe, ça fait classe.
Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur ?
Je m'estime que tu seras mieux ici que chez toi.
Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre.
Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là ?
Est-ce que vous avez fait une erreur ?
Dalva.
Je veux le voir, je veux rentrer à la maison.
Ça, c'est pas possible. On t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête-toi ! Arrête-toi !
Arrivé, on
n'en
a rien à foutre. Personne
ne
peut comprendre.
Viens niquer son bureau. Hein.
Arrête de mentir, je marche pas comme ça.
Dalva d'Emmanuel Nico avec Zelda Sanson et Alexis Manenti, entre autres. Premier film pour Emmanuel Nico. Didier, tu es allé le voir.
Oui, et je ne le regrette absolument pas. C'est vraiment un très très bon film. C'est un film, on le sait, hein, je crois que tout le monde le sait un peu, c'est un film sur l'inceste, la manipulation, je dirais surtout sur l'emprise. L'emprise, alors là, c'est un père sur sa fille, mais ça, on peut le transposer sur n'importe quelle emprise sectaire, etc. Et le film démontre et démontre bien les mécanismes de l'emprise, c'est-à-dire isoler la personne, lui faire croire un certain nombre de choses qui sont évidemment très très loin de la réalité et de la vérité, ce qui est encore plus facile sur une enfant qui de 5-6 ans jusqu'à ses 12 ans, l'âge qu'elle a lorsque le film commence, a été complètement soumise à ce père. Et soumise n'est même pas le mot exact, puisqu'elle a été volontairement entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a réussi à la convaincre que tout ça était absolument formidable, qu'il formait un couple certes illégitime, mais absolument heureux, que c'était incroyable ce qui leur arrivait. Enfin, c'est assez bouleversant. Et en même temps, il n'y a pas de pathos dans le film. C'est là qu'est la réussite, parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, des films sur l'inceste, il y en a déjà eu, on a déjà vu ça et tout. Mais la façon dont c'est traité ici est quand même très, très particulière. Mise en scène pour un premier film vraiment au cordeau. Dès la première séquence, dès le générique de début, ça démarre très très fort. On a un écran noir et uniquement du son. Mmh. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. On entend une qu'on reconnaît comme une voix de fillette qui crie, qui hurle, on ne sait pas ce qui se passe, des meubles renversés, des cris, des choses comme ça, et en fait c'est la descente de police. Le film commence là, on ne saura jamais, on ne verra jamais ce qui s'est passé avant, c'est pas voilà, c'est évacué du film, et le film va s'intéresser à la reconstruction de cette gamine qui ne se c'est dit dans le on l'entend dans le film annonce, qui ne se considère pas comme une gamine, mais qui se considère comme une femme. Et d'ailleurs, quand on la voit, c'est très troublant parce que son père lui a appris à s'habiller comme une femme très sexy, à se maquiller
comme un objet sexuel.
Comme, mais tout à fait un objet sexuel, sauf que elle est persuadée que c'est comme ça qu'elle est absolument heureuse. Et elle n'arrête pas de dire, d'ailleurs, aux éducateurs, aux procureurs, aux juges, elle n'arrête pas de dire, mais moi, j'ai jamais dit non. Voilà, et lui expliquer que bah, c'est parce qu'elle n'en avait pas les moyens de mentaux de pouvoir dire non, parce qu'elle avait été formatée. Et ça, c'est très, très difficile à entendre, parce que si on l'entend, ça veut dire que tout ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, quoi. Donc, il va y avoir tout un cheminement, en particulier dans un foyer où bah, y a pas mal d'autres mômes qui sont aussi des mômes cabossés par la vie, qui ne sont pas toujours tendres, mais qui vont former une sorte de bloc de force quand même sur lequel elle va pouvoir s'appuyer pour essayer de rebondir, retrouver sa mère, peut-être. Voilà. Il y a des choses, je retiendrai juste deux petits passages du film qui m'ont complètement bouleversé. C'est une enfant du placard. Donc son père déménageait sans cesse, parce qu'évidemment, il était recherché par la mère, etc., par la police. Et Dalva vivait beaucoup dans les placards où elle avait un matelas, un nounours, des choses comme ça. Et dès qu'elle ne va pas bien, eh ben, elle va se réfugier. Elle trouve partout où elle est, elle va trouver un placard, elle va se réfugier là. Et puis il y a une autre séquence qui à mon avis, résume bien ce qui lui arrive à cette gamine, c'est qu'un éducateur l'emmène dans un magasin de vêtements pour bah, essayer de lui trouver quelque chose d'un peu plus adapté à son âge et à sa situation. Et elle regarde, elle papillonne, elle choisit rien et tout. Et il lui dit, mais moi, j'ai jamais fait ça toute seule. Et on s'aperçoit, il lui demande quelle est sa couleur préférée. Elle n'a pas de couleur préférée, puisque tout lui a été dicté, tout lui a été infusé comme ça. Et donc, elle n'a aucune personnalité propre à elle.
Ouais, film sur la manipulation, et tu le disais, sur l'emprise. Et c'est vrai sur que quand tu en parles comme ça, ça fait écho à plein de types d'emprises où l'on prend les désirs des autres pour nos propres désirs et où on ne sait plus, comme tu dis, les désirs des autres infusent en nous et on se les approprie pensant qu'ils sont originels. Et alors que...
c'est exactement ça. Donc elle est vraiment à suivre, cette réalisatrice belge, je crois, Emmanuelle Nico, dont tu l'as dit, c'est le premier film. Elle filme toujours à la bonne distance, il y a très peu de gros plans, tout est caméra épaule, mais sans que ce soit un peu haut de cœur, comme parfois les Dardenne ou les choses comme ça. Voilà. Et puis quelque chose de très émotif, mais elle ne va pas chercher la facilité, elle ne va pas chercher le pathos. Parfois, la gamine, on a presque envie de lui en mettre une, quoi, parce qu'en lui disant, bah, écoute, mais en même temps, on sait bien qu'elle est complètement déresponsabilisée de ce qui lui arrive. Donc, je crois que c'est vraiment un film à voir où on apprend, même si on le sait ou si on croit le savoir, on apprend beaucoup de choses.
Dalva d'Emmanuel Nico. Et j'avais lu que justement Emmanuel Nico, ce sujet pour son premier long métrage, c'était vraiment un sujet qui lui tenait à cœur, notamment la thématique de l'emprise. Et elle avait déjà réalisé un court métrage où elle était en immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour les adolescents. Donc c'est quelque chose vraiment c'est quelque chose qui lui tient vraiment,
c'est
vraiment à cœur.
Son premier long métrage, mais elle a réalisé deux courts métrages avant.
Dalva, donc d'Emmanuel Nico, qui est à voir cette semaine à Aubenas et à Privas. Autre sujet brûlant, lui aussi.
Bonjour, police municipale à l'appareil. On vérifie que les habitants concernés par l'évacuation ont bien entendu l'alerte.
Oui, on est au courant.
Comment se passe l'évacuation jusque-là ?
Pour le moment, tout se passe bien et dans le calme.
Ça n'a pas l'air si terrible. On a presque l'impression de partir en vacances.
Que pouvez-vous nous dire du développement du feu de ces dernières 24 heures ?
Ce feu est particulièrement virulent avec une forte propagation.
Merde. pas laisser des centaines de bagnoles coincées comme ça au milieu de la forêt s'il pense qu'il y a un risque.
En tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important, les voitures passent les meilleurs lieux de détection.
Il n'y a pas beaucoup de temps, Simon. Des copains dans la forêt.
Allô ? Papa !
Je suis perdu.
Je reconnais plus rien.
Et nous, on reconnaît En plein feu de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, André Dussolier, Laura Sépul. Alex Lutz et André Dussolier qui ont eu les Césars, tous les deux, du meilleur acteur. Tu es allé le voir,
oui,
Olivier.
J'ai été voir ça, oui. Un film qui m'a touché, qui m'a paru extrêmement efficace, un film court. Nous ne sommes plus accoutumés aux films courts, 1h25, et une brièveté qui sert son sujet. Alors pour résumer, nous sommes dans les Landes l'été, et c'est le feu. C'est le feu comme ça a été le feu en Californie, comme ça le sera. Reynaud a filmé avant les grands incendies dans les Landes. Il y a quelque chose de prémonitoire là-dedans. Et donc le feu... je dirais qu'il dépasse l'imagination d'une certaine manière. Alex Lutz donc joue Simon, André Dussolier joue Joseph, son père, et ils sont tous les deux chez le père à vivre bien tranquillement quand les sirènes retentissent. Ils ont eu des informations locales et ils savent que dans ce cas, ils ont un quart d'heure pour quitter la maison, monter en voiture et partir. Ils hésitent un peu parce qu'il y a déjà eu des fausses alertes, enfin, etc. Mais enfin, ils se résolvent tout de même à partir. Et voilà donc le père et le fils dans la voiture avec la remorque prête. Enfin, ils sont compétents d'une certaine manière. Ils sont rassurants. Ils incarnent des personnages rassurants qu'on sent autonomes, efficaces. Mais bon, c'est rien, l'efficacité humaine et la compétence humaine face à la catastrophe naturelle et peut-être criminelle mêlée. Car en effet, rapidement, sur une départementale d'évacuation, ils sont bloqués avec des dizaines et dizaines d'autres voitures au milieu des flammes. Et c'est très étrange parce que... ce film devient presque immédiatement le film de l'enfermement. Oui. Ces hommes et les autres sont pris dans les flammes pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Ils vont se retrouver dans la file de voiture bientôt que eux deux seuls et un peu bloqués à cause d'un accident.
Ça s'entend dans la bande oui, annonce. On entend vraiment fait. Quelque chose de comme un huis clos, quelque chose.
Voilà.
De très...
Alors j'y venais effectivement, c'est-à-dire que ce film est une sorte de huis clos filmé et écrit d'ailleurs auparavant. Le scénario est de Reynaud aussi, hein, écrit comme une pièce de théâtre. Il y a le huis clos de la maison où ils reçoivent l'alerte, le huis clos de la voiture dans laquelle ils se retrouvent, le huis clos ensuite dans lequel se retrouve Alex Lutz, Simon avec une jeune femme aussi perdu que lui, au milieu des flammes toujours. Donc, huis clos dans huis clos, d'une certaine manière, et sensation d'enfermement qui peut devenir effectivement un peu lourde et effrayante. On sent le côté minuscule de l'homme au milieu de ce qui lui arrive, et comme on ne peut pas s'empêcher de penser... au changement climatique qui est quand même plus ou moins à l'origine de tout ça, vu les températures, vu l'absence d'eau, vu, etc. On sent aussi l'humanité au milieu de ce qui lui arrive du point de vue de son environnement, le même enfermement, la même finalement incompétence notoire autour de nous. Et d'une certaine manière, il me revenait la phrase de Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Là, ça brûle partout ailleurs et il ne reste plus que la maison qui peut-être ne va pas brûler. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment inquiétant. Alors, à cette atmosphère-là s'ajoute une autre atmosphère, beaucoup plus intérieure et intime, parce qu'on se rend compte très vite, je divulgue rien, que Simon est hanté par un rêve récurrent, et que ce rêve concerne ses enfants jeunes, il a des jumeaux, et que ce rêve, donc terrifiant, il l'a dès qu'il s'endort, même pour une sieste, même ou s'il perd un peu connaissance, il est rattrapé par ce rêve. Et son père Joseph, lui, a été marin, et il est, j'allais dire, bardé de souvenirs de marin, et il revient toujours à ses souvenirs de marin, les escales à New York, enfin il y a des choses vachement belles, hein. Mais enfin on sent qu'il tourne un peu en boucle dans ses souvenirs. Donc on a tout ce système d'enfermement successif, avec à côté de ça un tempo qui est donné par le passage successif, répétitif un peu, des huis clos étroits, la voiture, la maison, les maisons, et puis de l'autre huis clos, l'homme dans les flammes. Avec, donc, à quelques reprises dans le film, des échappées. Des échappées belles, d'une certaine manière, parce que une éclaircie au milieu d'une clairière non encore envahie par les flammes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis la perspective d'une échappée si on peut rejoindre l'océan. Et une perspective d'échappée aussi par la radio. Parce que bon, Simon doit avoir un métier dans la sécurité, où il est maître nageur ou quelque chose. Enfin bon, il a une radio genre sécurité civile, comme ça. Et de temps en temps, il arrive à entendre son fils, Samuel, avec lequel il a relativement peu de contact. Samuel a 16 ans, c'est un peu compliqué, etc. Et Samuel entend la voix de Simon, Simon entend la voix de Samuel, et c'est une autre échappée hors de son rêve récurrent, échappée... évidemment hors des flammes si ça devient un moyen de fuir, mais évidemment je dis rien, mais effectivement je dirais que ce sentiment d'enfermement dans les flammes est augmenté quand Simon fuyant croise une équipe de pompiers qui fuit aussi. Et là il prend conscience du fait que les pompiers eux-mêmes, super équipés, etc., n'ont plus qu'un espoir, sortir de cet enfer, et ils disent à Simon, suivez-nous. Et Simon n'est pas bien certain que ça soit la solution de suivre les pompiers. Il se demande s'il n'a pas, lui, une meilleure option à prendre. Donc tout ça ramassé en 1h25, j'ai trouvé que c'était très efficace, très bien écrit, très bien filmé. Le décorateur, le chef décorateur, a reproduit 80 mètres d'une route, parce qu'évidemment, c'est pas possible de filmer au milieu de vraies flammes, etc. Et le fait que l'essentiel ait été filmé, indépendamment des questions de budget dont on se fiche, le fait que ça ait été filmé comme ça sur une route de 80 mètres dans un studio, je pense que ça contribue à donner au film encore cette atmosphère d'enfermement et ce rythme assez serré dans le développement de l'histoire, quoi.
Enfermez-vous donc au cinéma pour aller voir En plein feu. Et en plus, il est projeté un peu partout, à Aubenas, à Rosières, au Teil et à Cruas cette semaine. Il me semble qu'on reste un peu sur la thématique de la tangente ou de prendre le large.
C'est une canalisation qui a pété ou...
Avec cette merde en plus, je peux plus être dans les temps.
Il y a Léa qui sera là demain.
Je veux qu'elle voie que c'est pas la guerre entre nous.
C'est pas moi qui dois me séparer.
Mathieu, j'aimerais que ça soit toi qui reprenne.
Bah non.
Mais si.
Non, non.
Depuis qu'on est voisins, on se voit plus.
Je sais, mais là, c'est chaud. Le boulot, là.
Pourquoi faire, papa ?
Comme ça, je partirai sans emmerder personne.
Quoi faire, clair ou foncé ?
Mathieu !
Mathieu !
Mathieu !
Je trouve pas Mathieu.
Il est dans la forêt, je crois.
Dans la forêt ? Tu fais là ?
Oh ! Regarde, c'est incroyable !
Il est dans la forêt, près d'un étang, là.
Mais tu vas pas bosser ?
Non. Et toi ?
Vous avez encore pointé en retard ce matin.
Toi, j'ai le temps, moi, d'aller me vautrer sur le sable ! J'en peux plus !
Je me
sens plus vivante.
Je vais partir en voyage très loin.
J'ai besoin de prendre la route. J'ai besoin de me barrer.
Je vais me permettre d'être tout à fait honnête et franche.
D'euthanasie, on ne parle plus.
C'est Mathieu qui nous a mis dans cet état, là. Parfois, on a juste besoin de...
se détendre, hein.
Sauter dans le vide, faut tout reprendre depuis le début.
Il est où, papa ? Il est dans la forêt. Mais il va très bien.
C'est Suzanne Clément qui le dit, il va très bien. Ailleurs, si j'y suis, de François Pirot avec Jérémy Régnier, Suzanne Clément et Jean-Luc Bidault, pour son retour. C'est toi, René, qui est allé le voir ailleurs, si j'y suis. Alors, qu'en as-tu pensé ?
Alors, bon, qu'est-ce que j'en ai pensé ?
Ah, quelque chose me dit que ça va être un peu plus nuancé. Mais la bande-annonce, en tout cas, a l'air chouette. C'est dynamique, c'est rigolo.
Le film annonce m'avait donné envie.
Ah, okay.
Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s'enfonce dans la forêt devant chez lui et il y reste. Alors face à cette démonstration de liberté, ses proches s'interrogent sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie. Et s'il avait raison ? Voilà. Alors,
oui, on a tous envie.
Mathieu, le personnage principal de ce film, n'en peut plus, je disais. Donc, son travail l'accapare totalement, il est toujours sur la brèche, et donc, sur un coup de tête, il décide, comme je viens de dire, de lâcher prise. Cette démonstration de liberté, cette rupture avec la société, va avoir donc des conséquences en cascade pour son entourage. Son patron, largement incompétent, très bien interprété par Jean-Luc Bidault, qu'on retrouve dans ce film, et qu'il ne peut se passer de lui, et il essaie désespérément, mais en vain, de le contacter, de le raccrocher en quelque sorte. Son meilleur ami décide lui aussi de quitter sa compagne pour partir à l'aventure. Son père, qui souffre d'hypocondrie, sombre dans la neurasthénie, autrement dit, cet enfoncement dans la forêt a toute une série de conséquences en cascade. Voilà. Et c'est peut-être là que réside ce qu'il y a de meilleur dans le film. Nous montrer que le lien social, les rapports que nous entretenons avec nos proches sont essentiels. Et surtout que si un des membres de ce réseau lâche prise, ça peut avoir des conséquences pour tous les autres. Autrement dit, montrer qu'on a désespérément besoin des autres. Ça, c'est un aspect très positif du film.
Eh bien, on en reste là, alors. Le film continue, d'accord.
Alors,
pardon.
Le scénario du film est intéressant. D'abord, comme je viens de le dire, pour cette idée qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, mais aussi parce que tous ces personnages sont attachants, on s'identifie aisément avec eux, on est en sympathie, et les acteurs qui les incarnent sont convaincants. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le film est démonstratif, beaucoup trop démonstratif. On a presque l'impression, par moments, que le film nous assène le message suivant. La vie que mènent les gens dans les pays riches n'engendre que le stress et la déprime. Alors en soi, c'est peut-être pas faux, mais c'est trop systématique et caricatural. D'autant plus que tous ces braves gens n'ont visiblement aucun problème d'argent. Ils habitent en bordure d'une superbe forêt et que 70% de la population mondiale aimerait bien se trouver à leur place. Voilà. Et pour moi, le problème de ce film est un problème de mise en scène. Ce film aurait pu emporter l'adhésion, n'aurait pu emporter l'adhésion que sous la forme d'une comédie. Alors, il y a quelques scènes de fantaisie, mais le potentiel comique, objectivement comique de ce film n'est pas exploité. Je prends un exemple. Le père du personnage principal occupe son temps à construire son propre cercueil. Et à un moment, il l'essaie. Il se couche dedans. Il s'y endort. Mais c'est tout. Imaginez ce que Woody Allen aurait fait d'une scène comme ça, quoi. Et non, ben non, il passe à côté, quoi. Le potentiel comique de cette scène n'est pas exploité. Ça aurait été de l'humour noir, mais peu importe. On peut dire ça de la plupart des scènes, d'ailleurs. On pourrait dire la même chose du personnage incarné par Samir Ghazni, qui a un réel potentiel comique. On l'a vu dans des rôles comiques dans d'autres films. Et là aussi, c'est très peu mis en valeur. Voilà. Alors, en changeant un peu le casting, bon, c'est sûr qu'il y a des acteurs qui ne conviendraient pas dans l'optique d'une franche comédie, mais surtout en orientant la mise en scène vers la comédie, ce film aurait été une franche réussite, je crois. Au lieu de ça, c'est un film qui hésite aux portes de la comédie. On sourit parfois à certaines scènes, mais pas davantage. Le climat du film reste à la morosité. On a l'impression qu'on veut nous faire prendre trop au sérieux les problèmes de ces personnages. Il y a trop de pathos là-dedans. Voilà. Et encore une fois, c'est d'autant plus dommage qu'à bien des égards, le film est émouvant, parfois imaginatif, et qu'on s'ennuie même pas, en fait. C'est tout, c'est une erreur de mise en scène, je pense.
Mmh. Eh ben, waouh. Mais finalement, la bande-annonce n'est pas fidèle au film, parce que dans la bande-annonce, moi, j'entends pas mal de, justement de comédie, de bons mots, etc.
Finalement, oui, je veux dire, c'est à peine effleuré. On sent qu'il amène des trucs qui pourraient déboucher sur la comédie, mais il ne les exploite pas. Le patron, par exemple, arrive sur le chantier avec une voiture qui roule à 40 à l'heure parce qu'on lui a supprimé son permis, il est complètement paumé. On aurait pu faire quelque chose de ça. Non, rien. Le personnage là de Ghesny, il fait un tonneau avec sa voiture et puis il décide de passer la nuit. La voiture est à l'envers, allongée sur le toit, à l'intérieur de la voiture. Mais c'est pas vraiment exploité comme comédie. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose avec ça quand même. Parce que justement, il y a un dépanneur qui vient et qui soulève sa voiture. Mais la façon dont c'est filmé, ça fait pas rire, quoi. Ah. Voilà, dommage.
J'aurais pu donner quelque chose de burlesque,
voilà,
par exemple.
Il fallait en faire un film déjanté. Ouais. Mmh. Et au contraire, c'est un film qui prend tout ça un peu trop au sérieux. Mmh. Mais même si c'est sérieux, la comédie peut parler de choses sérieuses. Mais justement, le problème, c'est qu'elle le fait en ne se prenant pas au sérieux. Mmh. Et ça, il passe à côté de ce film, passe à côté de ça. Voilà.
Ailleurs, si j'y suis, ben peut-être on n'y sera pas. Alors, si vous n'avez pas de forêt à proximité de chez vous, vous pouvez aller au cinéma.
Voilà.
Le voir à Aubenas cette semaine.
Par ici, on est quand même assez gâtés. Hein.
À partir du 12 avril, Privas. Bon, bah donc, du coup, oui, si, on peut y aller, au cas où. Mais on parle de films déjantés. C'est ce que j'ai entendu. Alors, j'ai entendu le film le plus fou de l'année. Quel est ce film qui a remporté 7 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film ?
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good.
I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help.
Very busy today. No time to help you.
Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you. Maybe our only chance of stopping it.
Don't make me fight you. I am really good.
I don't believe you.
Wow, that was really good.
Time is waiting in the wings.
The universe.
He speaks of senseless things.
Is so much bigger.
On finit avec David Bowie. Alors j'ai coupé la bande, enfin on a coupé la bande annonce. Hein. Elle dure plus de 3 minutes, 3 minutes 30, cette bande annonce.
Un film qui dure 2h30.
C'est ça. donc Everywhere, Everything, All at Once de Daniel Schenert et Daniel Kwan, qui a donc obtenu 7 Oscars, dont le meilleur film, la meilleure réalisation, la meilleure actrice pour Michelle Yeoh.
Alors déjà, je vais me tourner vers René. Moi, je traduis le titre partout et partout à la fois. Ça,
c'est quoi, répète-moi le en anglais.
Oh là, mon Dieu. Everywhere, everything, all at once. Oui.
Oui, partout.
Tout. On continue. On partout, commence. Tout.
Tout et partout à la fois.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça. Ouais. Bon ben voilà. C'est un peu ça le film. Donc alors très clairement, je l'ai pas revu là. Moi, je l'avais vu quand il est sorti. Ça m'avait pas vraiment emballé du tout, du tout. Donc j'en ai un souvenir un peu confus et un peu vague, même si ça fait quand même pas...
Tu n'aurais pas dit 7 Oscars.
Mon Dieu, non. Non, non, non. Alors c'est un film, c'est co-réalisé par les deux Daniel, tu le disais, Daniel Schenert et Daniel Kwan, que je ne connaissais pas, qui sont plutôt spécialisés dans la pop culture, clips, pubs, séries, des choses comme ça. Et donc ils mettent en scène une mère de famille qui est gérante d'une laverie et qui va être soudainement, on ne sait pas très bien pourquoi, propulsée dans des univers parallèles où elle va se transformer en un certain nombre d'autres personnages, dont une super héroïne qui est chargée de sauver le monde. Rien que ça. Voilà, une fois qu'on a dit ça...
Est-ce que c'est un film américain ?
Oui, c'est un film américain, même s'il y a beaucoup de kung fu dedans, et que l'interprète féminine principale, donc qui a obtenu l'Oscar aussi de la meilleure interprète, est Michelle Yeoh, ça vous dit quelque chose, je crois, qui est l'actrice spécialisée en films de kung fu, de super-héros, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, c'est inclassable, ça se veut drôle, moi j'avoue que ça m'a laissé un peu froid, c'est une curiosité, ça c'est certain. J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. C'est un film d'action, d'accord, mais ça se voudrait aussi un peu autre chose, peut-être à la Andy Warhol sauce 2023, ou je sais pas trop. Et pour moi, ça reste une série B grand format, parce qu'il y a quand même un banquier par derrière, quoi. Il y a quand même un budget qui est pas ridicule. Entre culture geek, Bollywood, kung-fu, clip, manga, tout ça, patchwork.
Multivers, mais, ça ne ment pas. Oui,
multivers, ouais. Oui, c'est le thème du film. Tout ça dure 2h20 quand même. Je me suis, moi, vraiment beaucoup, beaucoup ennuyé. Alors... On dit beaucoup la critique, et puis les Oscars, tu le rappelais, 7 Oscars, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure interprète féminine, etc., etc. Donc beaucoup de gens pensent que c'est un chef-d'œuvre absolument génial. Je m'interroge, pour moi c'est un peu du grand n'importe quoi aussi. Donc vous l'avez compris, ça ne m'a pas vraiment emballé, mais alors ce qui est certain, c'est que c'est une réelle curiosité, et donc si vous êtes curieux de découvrir des nouvelles formes de cinéma, des tentatives de faire autre chose et tout ça, c'est le film idéal, quoi. Mais j'avoue que moi, personnellement, j'ai trouvé les 2h20 assez longues.
Est-ce que tu crois que le problème, c'est pas le problème récurrent avec le cinéma hollywoodien, à savoir que c'est un film pour les gens qui ont entre 14 et 15 ans?
Ben, je me suis posé la question, mais je suis pas certain, non, je suis pas certain, je dirais. Alors, c'est sûr que c'est pas un film pour les nonagénaires, ça, c'est certain, mais je dirais plus peut-être même pour les trentenaires. Je crois que c'est vraiment une culture, des 25, 35, quelque chose comme ça.
Même si pour les gens qui ont grandi dans les années 80, ils peuvent voir Jamie Lee Curtis.
Oui, on peut, mais. Mais bon, est-ce que ça suffit ?
Il y a pas mal vieilli. Mais,
oui, pour elle, la vieillesse n'est pas un naufrage, apparemment. Pas pour le moment.
Ouais, ça se passe pas trop mal, oui.
Donc, Everywhere, Everything, All at Once. Donc, si vous êtes curieux, c'est à voir à Aubenas cette semaine et à Rosière la semaine prochaine. Tu me disais, effectivement, juste petit coup de gueule, mais je trouvais intéressant pour les Oscars. Effectivement, il y avait de très, très, très nombreux films.
Kate Blanchett, moi, j'aurais parié mes deux mains.
Kate Blanchett,
sur Kate
bien
Blanchett
sûr.
Dans Tar, enfin,
fais gaffe à l'avenir pour tes mains.
Bah oui, je vais plus jamais faire ça. Voilà, il y avait quand même, pour ne parler que des films récents, The Fabelmans de Spielberg, quand même, qui méritait quelque chose.
Mais est-ce que Babylon, Spielberg est aimé aux États-Unis? Moi, c'est une
question. Je ne suis pas certain. Alors, E.T., oui, tout ça, mais je pense que dès qu'il a réalisé des films un peu plus personnels, et Dieu sait si celui-ci est personnel, c'est pas ce que les Américains, attendent de lui. Et je me demande également, enfin, je suis à peu près certain maintenant, que les Américains, d'une façon générale, n'attendent presque plus que des films d'action qui vont très vite. Parce qu'on s'aperçoit quand même que le Spielberg est un échec, Babylon est un échec, et qu'il y a énormément de films, même le film de super-héros. J'ai un trou de mémoire africain, Black Panther 2, qui est quand même assez particulier pour un film de super-héros, le sens où par exemple le film fait 2h30, 2h40 et que la Black Panther n'arrive qu'au bout de pratiquement 2h. C'est un film où on parle beaucoup, on voyage beaucoup, etc. N'a pas fonctionné du tout
aux États-Unis.
Nouveaux usages de consommation, du coup.
On écoute des cinéphiles qui vont au cinéma aux États-Unis, ils disent tous qu'il n'y a plus de concentration. les gens que téléphonent, regardent leurs messages, commentent.
On commence aussi chez nous. Enfin,
ça, et on dit que bon, à Aubenas, ça va. Moi, j'ai pas trop de soucis pour le moment. Mais je pense que dans certaines grandes salles de parisiennes, on a eu l'exemple là, de Creed, je sais plus quel numéro, où les gens là carrément se battaient dans la salle. Quoi. Donc c'est là c'est encore un autre.
Oui, c'est encore autre chose.
On va revenir en France avec Pour la France. Tu voulais en dire un mot avant de terminer l'émission. C'est vrai que c'est peut-être un film plus intéressant que tu voulais défendre.
Oui, très très clairement. Enfin, pour moi en tout cas, oui, c'est un film de Rachid Ami avec Karim Leclou. Qui est un des acteurs, je crois, qui est en train de monter en France aujourd'hui. On le voit dans énormément de films, mais il est vraiment excellent. C'est un film un peu particulier dans le sens où, alors, encore une fois, c'est un film tiré d'une histoire vraie, sauf que là, l'histoire, elle est vraiment arrivée au réalisateur. Et l'histoire, c'est un jeune élève d'origine arabe qui a intégré Saint-Cyr et qui va mourir dans un bizutage qui tourne mal. Et d'ailleurs que l'armée refuse d'appeler bizutage, mais bahutage, ce qui change tout, évidemment. Et donc c'est le frère du réalisateur qui est mort, et donc il y a vraiment quelque chose dans le film de très très fort, de très très puissant, parce qu'on ressent la fratrie pendant tout le film, et que c'est ce film, au-delà de l'histoire qu'il raconte, est un hommage à ce jeune garçon qui est...
On m'a dit que c'était pas un brûlot contre l'armée, du tout.
Alors c'est pas un brûlot contre l'armée, mais c'est un film très honnête qui démontre quand même que la grande muette, comme on dit, c'est pas par hasard, essaie de écraser un peu l'affaire, étouffer un peu l'affaire. Donc je vais aller très vite parce que c'est la fin de l'émission. Donc c'est l'histoire d'une famille, c'est une histoire de fratrie, de double identité culturelle et aussi d'un deuil qui a besoin de la reconnaissance, et cette famille a besoin de montrer sa place dans la République française.
Pour la France, merci. Et du coup, je ne peux pas dire où il est diffusé, mais vous le retrouverez sur Internet. Pour la France, en tout cas, à voir. Pour terminer, j'aimerais dire un mot sur la 8e édition du festival Palestine en vue, qui aura lieu ce dimanche au Navire, au Aubenas, avec à 17h la projection du film Tantoura d'Alon Schwartz, en avant-première. C'est un documentaire qui remet en question le mythe fondateur d'Israël et l'incapacité de sa société à accepter son passé.
J'ai vu Le piège de Houda, qui se passe... très très beau film, très efficace également.
Non, mais tu n'écoutes, tu n'écoutes pas quand tu n'y es pas. Mais oui, très bien. Ouais, le piège de Houda.
C'est ça qui est grave.
En tout cas là, donc à 17h, donc la projection du film, et cette projection sera suivie d'une discussion avec Jean-Jacques Grandspan, qui est le distributeur du film. Et puis à 20h30, donc après un petit buffet qui sera proposé dans le hall du cinéma, la projection du film D'un exil à l'autre de Bassela Abou Ahmed, qui sera suivi de la rencontre avec la réalisatrice du film. C'est 10 euros pour les deux films, donc venez à cette 8e édition du festival Palestine en vue au Navire. Sinon, il y a plein d'autres choses. Ce soir.
10 secondes, juste pour dire que dans le hall du Navire, il y a actuellement une exposition formidable sur les marginaux qui est pleine d'humanité, qui est vraiment superbe. Des photos.
Des photos, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Didier, d'avoir relevé ça. Et juste, j'enchaîne ce soir, vendredi à 20h30 à Lussas, La Grande Magie, à Tueil, salle La Vesprade à 20h30, Les Choses Simples. Demain, samedi 1er, à Fabras. J'en parle parce que le cinéma, grâce à la Maison d'Image, c'est aussi un cinéma qui tourne, un cinéma itinérant. Samedi 1er à Fabras, à 20h30, c'est Goliath, la fiction autour des questions du lobby agroalimentaire. Et puis des surprises, mais le cinéma c'est toujours des surprises. Auteuil, le film surprise en avant-première choisi par l'Association française des cinémas ARS. C'est lundi à 20h et c'est mardi à Lussas. Voilà, et mardi, le 4, c'est aussi à Tueil, Petite. Voilà, et si je termine, Auteuil, parce que c'est ce fameux documentaire qui tourne pas mal dans nos cinémas du coin, c'est Ardéchois, paysans montagnards. Et il y a même deux séances Auteuil qui sont prévues, l'une à 19h30, l'autre à 20h30, pardon, avec le réalisateur Bernard Pérol qui sera présent. Voilà, j'ai entendu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non.
Bon.
Bien, c'est rendez-vous donc Auteuil, mardi, Ardéchois, paysans montagnards. Merci beaucoup à vous trois et merci Sylvain pour ta patience aussi. Et allez au cinéma. À bientôt, à vendredi. Voilà.